Bonsoir Tariq, merci pour cette invitation à répondre à la question d'Ibn Rushd à travers de débat imaginaire. Je vais essayer de répondre à tes questions. En 2017, j'ai fait un travail de recherche sur les philosophes, les penseurs, les astrologues entre 10 et 14e siècle. C'est un travail de recherche que j'ai fait dans le cadre de l'exposition que j'ai fait individuelle Matière grise sur Ibn Shatir, sur Ibn al-Haytham, sur Bayrouni. À cette époque-là, qui m'a intéressé beaucoup, c'est l'aspect scientifique, mathématique, sur les phénomènes de l'éclipse, comment ils ont traité ça, les dessins qu'ils ont ramenés, les différents dessins pour traiter ce phénomène, les mouvements des étoiles, comment ils ont analysé, comment ils ont approprié ce mouvement-là sur la vie quotidienne des êtres humains, la relation du corps avec le cosmos. Vraiment, c'était vraiment cette recherche-là sur l'aspect scientifique. Et j'ai tombé sur Ibn Rushd, entre autres, ce qui m'a conduit sur un autre chemin qui est la philosophie, l'histoire de la philosophie gréco-arabe. Donc voilà, j'ai tombé là-dessus en recherchant sur les penseurs, philosophes, astronomes de 10 et 14e siècle. De travailler sur l'illustration, l'image de Averroès avec Proféry, très très longue histoire parce que ça m'a pris beaucoup de temps quand j'ai rencontré Ibn Rushd, j'ai plongé là-dessus, j'ai plongé sur sa vie, sur sa pensée, sur sa manière de traiter la théologie, de traiter la philosophie, de voir voilà, de voir cette différence, comment il traite la philosophie en fait, et comment il a continué, comment il a fait le pont entre qu'on a appelé Al-Falsafa, qui est plus la traduction littéraire de philosophie, mais Al-Falsafa, il est plus planché sur l'aspect religieux, plus que la définition classique de la philosophie occidentale. Donc, il a fait le pont entre Al-Falsafa et la philosophie occidentale. Donc, quand j'ai planché là-dessus, évidemment, il m'a pris beaucoup de temps. Et juste pour donner une petite biographie de Ibn Rushd, il est né à Cordoue en 1126. Il a assisté à la chute de l'empire Morabite et l'apparition de l'empire Mouahide. Et un peu plus tard, il a travaillé comme juge de Cordoue, il a travaillé comme médecin de prince de l'époque, et en même temps, il était philosophe. Mais la philosophie à l'époque, c'était pas vraiment un métier à part entière, c'était une pratique dans la société, mais c'était presque privé. Donc, ils étaient des cours chez soi avec quelques étudiants, et voilà, on parle de la philosophie. À partir de ce moment-là, vraiment, ce contexte-là, il est très particulier parce que l'Andalousie, c'est le contexte islamique, tout le monde il parle arabe, tout le monde il pense arabe, et le côté politique qui est très très instable. Quand j'ai plongé sur sa pensée, évidemment, j'ai tombé sur plein de livres, plein d'écrits, plein de un peu différentes par rapport aux philosophes qui étaient avant lui, par exemple comme Al-Farabi, Ibn Sina ou Al-Kindi. La philosophie de Ibn Rushd, elle était un peu différente par rapport à ça, notamment le livre Fasl al-Maqal. Et Fasl al-Maqal, qui était la première, si on peut dire, la première déclaration, entre autres, sur de séparer, si on peut dire, de séparer la religion et la philosophie. Avant lui, par exemple, on parle toujours de la vérité absolue de la religion qui porte cette vérité absolue. Donc la philosophie, il n'a pas ce moyen-là de nous donner cette vérité absolue. Et après, il y a ce livre de Tahafut, Tahafut, qui, à mon sens, qui est très intéressant par rapport à ce ligne de cette histoire de la philosophie gréco-arabe. Tahafut, Tahafut, c'est une réponse sur le livre de Al-Ghazali sur Tahafut al-Falasifa. Al-Ghazali, il a fait ce livre contre la philosophie de Ibn Sina. Donc, il a traité Ibn Sina de mécréant, qui n'a pas cette capacité de voir la lumière de la religion pour toucher cette vérité, vérité absolue, la philosophie, ça sert à rien. La philosophie, il n'y a pas ce moyen d'arriver jusqu'à la vérité absolue de la religion. Et Ibn Rushd, il a répondu à Al-Ghazali avec le livre Tahafut, Tahafut, qui va dans le sens de Ibn Sina et confirme aussi, en plus, il fait presque la deuxième déclaration, si on peut dire, de séparer la religion et la philosophie. Même, il a déclaré que la religion toute seule, ça suffit pas. Il faut absolument la raison pour comprendre la religion. Donc, juste dans cette déclaration-là, on sait que il essaye de critiquer un peu la religion, mais pas trop parce que ça ne se fait pas, et même déjà dans son contexte, il y a des gens qui, voilà, ses contemporains, ils ont traité Ibn Rushd de mécréant, de tous les noms qu'il peut avoir. Donc il essaye d'être très 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 prudent par rapport à sa philosophie, comment il traite la philosophie, comment il traite les sujets, par exemple le corps, comment il traite l'intelligence unique, par exemple il a déclaré qu'il y a une seule intelligence, donc il y a toujours cet aller-retour entre la religion et la philosophie, mais il y a toujours entre les lignes que il faut la philosophie dans la société. Et aussi, il faut la religion dans la société pour les gens qui n'arrivent pas à atteindre la philosophie. Donc voilà. Et après ça, évidemment, il y a le fameux commentaire de Aristote. Et ça, c'était le coup de génie de Ibn Rushd pour avoir cet espace de la liberté pour exprimer sa philosophie, sa propre philosophie. Donc, il a essayé de faire le commentaire de Aristote. Il a fait le petit commentaire, le moyen commentaire et le grand commentaire. Le grand commentaire qui était très très célèbre, qui a vraiment traité toute l'œuvre d'Aristote, qui a analysé, qui a commenté, et ce grand commentaire, il était traduit en latin juste après sa mort, 30 ans après sa mort, il était traduit au latin et il était programmé dans toutes les universités occidentales, notamment à Paris. Donc il était très très lu. Tout le monde, il parle de Ibn Rushd, comment Aristote est arrivé là avec le commentaire de Ibn Rushd. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde, il parle d'Ibn Rushd comme le commentateur de Aristote. On a compris Aristote à travers Ibn Rushd et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, ils ont trouvé leur rupture avec Ibn Rushd parce qu'ils ont trouvé l'ambiguïté entre les deux, entre la philosophie propre d'Aristote qui a commenté et sa propre philosophie entre les lignes. Donc ils ont trouvé leur rupture avec Ibn Rushd. Aussi, ils ont traité Ibn Rushd avec tous les noms, secrétaire de l'enfer, le diable dans l'état pur, et voilà. Donc, À partir de ce moment-là, pour moi, c'était des recherches. J'ai plongé sur sa vie. J'ai compris un petit peu comment ça fonctionne pour arriver jusqu'à la philosophie, presque la philosophie contemporaine d'aujourd'hui, hein, occidentale. Donc, il y a ce chemin-là. Il y a ce chemin et parmi les d'autres chemins qui existent. Et j'ai essayé de traduire ça. Hein, j'ai essayé de traduire ça visuellement ou plastiquement. Entre autres, j'ai tombé sur ce document qui à mon sens, très intéressant et c'est la clé pour montrer ce chemin, de la philosophie de période grecque jusqu'à la philosophie contemporaine d'aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ce document, mais ce document de ce qui représente Averroès assis en face de Porphyrie. Cette image-là qui est très 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 intéressante, mais il n'a jamais existé, il ne peut pas exister parce que déjà Porphyrie il est mort en 305, Ibn Rushd il est mort en 1198, donc c'est impossible d'avoir cette conversation-là. Et pourtant, pour moi, c'est possible, si on peut dire, c'est possible parce que toute l'histoire de Ibn Rushd, toute l'histoire de la philosophie gréco-arabe jusqu'à aujourd'hui, cette image-là, elle montre ça. Elle montre cette histoire-là. Et pour moi, c'était même ça, c'était un peu insuffisant pour moi parce que il faut rajouter quelque chose pour montrer plus. Pour fermer ce cercle en fait qui manque ou bien de trouver ce puzzle, il faut rajouter quelque chose. Et pour mon intervention, c'était deux interventions que j'ai fait. La conversation entre Ibn Rushd et Porphyrie, c'est une conversation sur l'abstinence générale, l'abstinence partiale. Donc j'ai essayé de traduire de latin vers l'arabe. C'est ça la première intervention. La deuxième intervention, j'ai fait cette traduction en niant. Donc il y a la lumière. Et pour moi, c'est important de signaler ça parce que chaque conversation entre deux cultures, il y a la lumière qui sort. Il y a toujours cette lumière qui sort, quelle que soit la conversation, quelle que soit la position, mais il y a deux cultures qui se rencontrent, il y a la lumière qui sort. En même temps, cette lumière, c'est pas que la lumière, on aperçoit pas que la lumière qui sort, mais cette lumière-là, il donne la lumière sur la situation, il donne la lumière sur ces producteurs, si on peut dire, de la lumière. Pardon. Donc voilà, c'est à partir de cette histoire-là, cette histoire brièvement de la philosophie gréco-arabe, j'y constitue cette traduction, si on peut dire, cette traduction entre ce que j'ai comme matière première et le travail visuel classique. Évidemment, pourquoi je fais ce travail-là, je ne sais pas trop, mais c'est évidemment par rapport à cette histoire-là que j'ai racontée et par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, évidemment, il y a une espèce de écho qui s'installe, il y a une espèce de question qui répond à une autre question. Si on parle par exemple des intellectuels aujourd'hui, les frontières, on a parlé librement de la circulation de la pensée, du voyage, voyage de la philosophie, ce voyage magnifique qu'il a fait la philosophie jusqu'à l'arrivée à nos jours. Aujourd'hui, on parle de la frontière. Déjà, on parle de quelque chose qui complètement contrasté par rapport à ce qu'on est en train de dire sur la pensée et sur la philosophie de Ibn Rushd. Là, aujourd'hui, on parle de la frontière physique, et automatiquement, on parle de la frontière mentale. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Par exemple, j'analyse ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, c'est un peu complexe de parler de la frontière physique et sans parler de la frontière mentale. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans tous les intellectuels, soit les écrivains, soit des artistes de diaspora et aussi de la traversée, si on peut dire, entre nord-sud, il y a toujours cette notion de la frontière qui rentre dans la réflexion, qui rentre dans la discussion. Et il y a toujours ce reste, malgré, on peut dire, oui, il y a des intellectuels au Maroc, par exemple, ils n'ont pas besoin de cette frontière parce que même s'il y a la frontière, on peut penser, il y a l'Internet, mais à mon sens, l'Internet, elle peut donner tout, mais elle peut empêcher tout. Effectivement, la réflexion, ça prend un autre chemin, en fait. Quel que soit le sujet traité, il y a toujours la frontière qui rentre, parce qu'elle est là, elle est dans un coin de la tête, donc on peut parler de ça. Il y a toujours on ne peut pas penser librement, même on a un passeport, même on peut voyager, mais il y a toujours cette notion de frontière dans la tête qui fait un peu orienter notre pensée et notre réflexion sur ça. Donc, il y a toujours un aspect direct ou indirect sur notre production pensive. Mon pratique, pourquoi je me suis intéressé à la philosophie dans mon pratique, je pense qu'il y a pas mal de paramètres qui m'a permis d'utiliser la philosophie ou la psychologie ou la sociologie mais c'est pas automatique, c'est vraiment pas automatique. Quand j'étais à l'école, j'ai fait les études à l'école des beaux-arts de Tétouan, de l'art. Et à l'époque, la question qui me taraudait, c'était vraiment la question, est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire dans le sens où est-ce que je suis capable de faire ce travail? Et c'était vraiment dans l'ordre de manuel, dans l'ordre de la capacité de savoir-faire manuel, de faire quelque chose. Et après, quand j'ai continué mes études en France, la question et ça, elle a commencé à prendre une autre dimension. La question, elle est devenue pourquoi je fais ce travail? Donc, à partir de ce moment-là, toutes les portes qui s'ouvrent pour moi, dans le sens où de poser la question. De fabriquer ou bien de prendre un rythme de travail ou bien un système de travail, de poser des questions, de reposer des questions, de plonger sur l'archive, d'analyser le sujet, d'essayer de traiter le sujet dans tous les sens. De mélanger tous les domaines, essayer de vraiment d'avoir plus possible les matières premières pour traiter un sujet avant de passer à la réalisation d'un travail. Effectivement, ça m'a pris du temps aussi de savoir que c'est pas le travail qui compte, mais il faut fabriquer la façon de faire. Et la façon de faire qui était très important pour moi d'essayer de mélanger par exemple la philosophie ou la sociologie pour traiter un tel sujet, même parfois des sujets qui sont très simples, et d'essayer de reposer les questions avec presque toutes les langues pour avoir une résultat, si on peut dire, résultat presque conceptuel, avant de passer à la réalisation d'un projet. Et effectivement, quand j'étais en France, j'ai collaboré beaucoup avec Joseph Kossuth, qui est un des fondateurs de l'art conceptuel et qui a écrit un livre qui s'appelle l'art après la philosophie. Donc il a fait le lien avec la philosophie qui m'a impressionné beaucoup aussi à savoir que on peut pas voilà on peut pas traiter un sujet sans savoir voilà sans savoir toutes les aspects qui sont autour, même économiques parfois, sociologiques, philosophiques, de poser des questions. Ça m'a intéressé beaucoup aussi de sortir de l'art avec la philosophie. Pardon. Donc, c'était pour moi, c'était une continuation par rapport à ce que j'ai pensé, par rapport à ce que je veux avoir comme démarche de travail, jusqu'à arriver, voilà, jusqu'à arriver de réaliser le travail final. Et pour moi, tout est lié en fait. Tout est lié de constituer un dossier, de prendre un sujet, de modeler, de choisir des matériaux, d'essayer voilà, d'avoir un volume. Et tout ça, c'est très très lié par rapport à ce que j'ai fait comme recherche avant. Donc, c'est comme une machine à choix, si on peut dire, une machine à choix et de compléter des puzzles pour arriver à boucler la cercle. Donc voilà. La signification de Rahat al-Aql, c'est la peace of mind, la tranquillité de l'esprit. La tranquillité de l'esprit, c'est un livre de Ahmad al-Karmani. Ahmad al-Karmani, c'est un penseur, un penseur aussi philosophe. Il est mort en 1021. Ce qui était intéressant chez lui, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment aussi c'est un lien avec Ibn Rushd. C'est sa particularité aussi, c'était cette questionnement entre la séparation de l'âme, le corps, l'univers, la particule, tout ce qui est un peu dans l'ordre de la matérialité, la spiritualité, dont Rahat al-Aql, ce livre, est vraiment il fait cette comparaison et cet détachement du corps et l'esprit. Et il fait, ce qui est intéressant, il a fait un petit schéma des échelles du corps, des échelles de la spiritualité ou l'âme, ou l'esprit. Il essaye de comprendre l'équilibre entre le corps et la spiritualité pour avoir la tranquillité. Et pour moi, ça m'a intrigué un petit peu de dire, bah, évidemment, la tranquillité, si on parle de la tranquillité, on parle de la stabilité mentale, si on peut dire. La stabilité mentale, c'est pas que le mental qui parle, mais aussi le corps qui intervient, qui fait son intervention. Donc pour moi, c'était vraiment l'analyse ou bien la représentation d'un être humain avec cette séparation de l'âme et le corps et le moyen de cohabiter ensemble avec un certain degré, avec un certain échelle. Et chacun de nous, chacun de ces êtres humains, il a une espèce d'échelle entre l'âme et le corps. Donc pour moi, c'est la stabilité, de trouver la stabilité entre les deux. Il a très très bien expliqué que chacun peut trouver cette stabilité-là. C'est comme un thérapie. Pour moi, c'était vraiment un début de thérapie, un début de la psychologie. J'ai représenté ça avec une installation qui fait les liens entre chaque compartiment du corps, de l'âme, des chiffres, les degrés de l'âme, les degrés du corps, et de faire le lien entre les deux pour avoir le bon équilibre entre les deux. Effectivement, le travail sur Ibn Rushd avec le débat imaginaire m'a laissé poser beaucoup de questions par rapport ces débats imaginaires de l'époque, est-ce que il est valable aujourd'hui? Est-ce que peut avoir un vrai débat par rapport à ce sujet-là? Et je pense l'intérêt qu'on porte à Ibn Rushd aujourd'hui, c'est un témoignage par rapport sa pensée et par rapport à ce qu'il a laissé derrière lui. Et peut-être aujourd'hui, on n'est pas seulement des enfants de Ibn Rushd, mais effectivement, on est des parents d'Ibn Rushd aussi.